Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue sur Gymencast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de gymnastique, signé Spot Gym. Je suis Elisa Cohen, et une à deux fois par mois, je vous emmène découvrir les acteurs et les actrices de la gymnastique rythmique comme vous ne les avez jamais vus. Gymnastes, entraîneurs, juges et bien d'autres, nous dévoilerons leur expérience, leurs anecdotes, mais aussi leur avis sur la GR dans des interviews exclusives. N'hésitez pas à commenter, à partager et à nous suivre sur nos différents réseaux pour ne plus jamais manquer une publication de gym. C'est une joie pour moi d'avoir pour invité aujourd'hui Brenda Jichua, coordinatrice d'Anthony GR, un club qu'elle a créé il y a moins de 2 ans et qui a déjà remporté 2 médailles au championnat de France individuel à Nîmes. Mais Brenda est aussi à l'initiative des premières masterclass à grande échelle en France. Bonjour Brenda.
Bonjour Elisa.
Alors déjà, comment t'es venue l'idée d'organiser des masterclass ?
Alors, la première idée m'est venue de Basma Eliazad, qui était gymnaste haut niveau au Pôle Évry, qui avait pour copine Axel Jovenin. Alors, l'année où j'ai organisé cette masterclass, je cherchais juste un nouveau souffle pour mes gymnastes durant le stage estival. Et du coup, Axel venait d'annoncer sa retraite. Très amie avec Basma, je lui ai proposé de venir en Ile-de-France et du coup faire une masterclass à mes élèves. Au final, elle s'est ouverte aux gymnastes de l'Ile-de-France, ça a très très bien fonctionné. Et de là sont parties les masterclass suivantes.
Ok, c'était quand ça ?
2011, je crois.
Ok, et est-ce qu'on peut dire que t'es pionnière un petit peu dans le domaine ?
Peut-être que c'est prétentieux de dire ça, je sais pas. Peut-être oui, des masterclass se font, mais peut-être pas à aussi grande échelle. C'est souvent des masterclass locales. Je ne vais pas dire que je suis pionnière, mais c'est vrai que le club d'Anthony a instauré, on va dire, un cycle. C'est assez récurrent. Chaque année, on essaie d'en faire une. Et on essaye vraiment d'innover chaque année dans les formules de masterclass qu'on propose.
Ok. Alors, donc, tu es coordinatrice du club d'Anthony. Donc, quel rôle tu joues vraiment dans ce club ?
Alors, beaucoup d'organisation. Donc, j'essaye vraiment de coordonner l'organisation d'événements, l'organisation... des entraînements. Je suis la passerelle entre les entraîneurs, le CA et surtout l'organisation des cours en général. Sachant que j'ai ma collègue Stéphanie Lefort qui est responsable technique et qui joue très très bien son rôle entre la fédération, les entraîneurs et le bureau. Voilà.
Ok. Comment s'est un peu créé le club ?
Alors, le club est né à la suite d'une scission. Donc, nous étions un club à Anthony dont les dirigeants ont décidé de supprimer la section UFOLEP, la section dont j'étais responsable. À l'annonce de cette suppression, ça a été un coup de massue puisque l'UFOLEP rapportait énormément de résultats au club. Les subventions étaient basées en grande partie sur les résultats du UFOLEP. Les événements organisés étaient aussi, comment on peut dire ça ? Était émané de l'UFOLEP, des filles UFOLEP. Tous les événements, c'était les filles UFOLEP qui étaient dans l'engouement, dans l'événement, dans la préparation. Et à cette annonce-là, on s'est posé des questions, les entraîneurs, puisqu'en fait, on ne nous a pas demandé notre avis. Ça a été la suppression de l'UFOLEP et basta. Que font les entraîneurs ? Ben, vous décidez de venir en FFG ou vous partez. De même pour les gymnastes, ça a été elles rejoignent la FFG où il y a des clubs aux alentours UFOLEP. Donc après cette réunion, on est sorti assez déconcerté. On s'est appelé, on a fait une petite visio avec les entraîneurs. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Certains ont émané l'idée de se mettre avec des sports co et d'intégrer la GR par exemple au basket ou d'intégrer la GR au volley ou d'intégrer voilà avec d'autres sports sur la ville d'Anthony. Et un parent qui a eu vent, je ne sais pas comment, de cette scission, nous a dit pourquoi on ne créerait pas notre propre club, tout simplement. On s'est dit, c'est compliqué, parce que 2 clubs dans la même ville, c'est compliqué. Mais ça se fait, ça s'est déjà vu, en plus dans la GR, ça s'est déjà vu sur Argenteuil ou d'autres villes, dans la même fédération, puisqu'il était convenu qu'on reste UFOLEP si on montait ce club-là. Mais qu'on aille aussi en FFG, puisque la mairie se base sur les résultats, oui, UFOLEP, mais sur la fédération délégataire. Donc c'était un challenge, on s'est dit, est-ce qu'on se lance ? On a pris le temps de réfléchir, et puis on a demandé un rendez-vous avec le maire d'urgence pour évoquer le problème. Le maire nous a donné son feu vert, puisqu'on lui a avancé tous les arguments, que tous les événements, toutes les masterclass, tout ce qui était présenté par le club d'origine, émaner des filles, des gymnastes et des entraîneurs UFOLEP. On a eu son feu vert. Après, s'en est venue la bataille des créneaux. on nous a fait comprendre à juste titre qu'on était le club, certes, on avait les plus vieilles gymnastes, certes, on avait les plus vieux dirigeants, mais historiquement, bah, le second club était premier. Donc, on nous a dit, il va falloir que vous battiez, il va falloir montrer que vous avez la possibilité d'avoir plus de créneaux, faire vos preuves. Chose qu'on a fait cette année. On a cravaché dans des conditions moindres que ce qu'on avait avant ça. On a usé d'astuces pour organiser des masterclass la même année, deux. On a continué sur l'UFOLEP et la FFG. C'était épuisant, puisqu'avant, en étant juste UFOLEP, j'avais quelques indives en FFG. Ça se passait très bien, mais c'était certes quelques indives. C'était deux indives. C'était pas des équipes FFG, des individuels FFG. Et j'étais 100% UFOLEP. Donc c'était compliqué, mais voilà comment a été créé le club.
Ok, et toi, tu as été gymnaste avant ça ?
J'ai été gymnaste à Cergy jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à mettre dans l'entraînement. J'ai passé des diplômes, mais je n'avais pas l'âge de les avoir. Donc, on me les a donnés puisque je les avais validés. Et à partir de ce moment-là, animatrice, j'ai continué dans l'entraînement et j'ai arrêté de pratiquer.
D'accord. Alors, si on en vient un peu au masterclass, donc est-ce que tu as eu du mal à convaincre les membres du bureau à organiser d'aussi grands événements ?
Alors, les anciens membres de l'ancienne association, pas du tout. À partir du moment où le projet est bien ficelé, tu sais où tu vas et tu présentes un projet valable. Il y a toujours des risques, ça c'est sûr et certain, mais le projet, en fait, à chaque fois que j'ai proposé une masterclass, si on était en perte, c'était pas des pertes qui allaient faire couler le club, quoi. Pas du tout. La masterclass où j'ai eu beaucoup plus de mal, c'est celle avec Margarita Mamoun, puisqu'il y a eu le changement de présidence cette année-là. Et en fait, on s'est heurté bah, du coup avec des nouveaux présidents, dirigeants, qui avaient peur de leur ombre. À savoir, cette masterclass, elle est dans l'année Covid. Au bout de 26 minutes, toutes les places étaient vendues. Mais je ne sais pas, il y avait toujours une réticence. Alors, je ne sais pas si cette réticence vient de la masterclass, du Covid, ou parce que je l'organisais. Je pense que c'est plutôt parce qu'elle avait été organisée par Brenda et les membres UFOLEP, que le club est FFG, prône la FFG. Je l'entends, mais au final, on est un club et c'est la même. On va dans la même direction. Elle a été compliquée parce que voilà, il y a eu le Covid. Margarita Mamoun venait de Russie, donc il y avait des restrictions. Il fallait prouver qu'elle a un visa. Il fallait prouver qu'elle était bien vaccinée. Ça, c'est des papiers qu'on n'a pas à lui demander. À partir du moment où elle nous dit que c'est bon, bah, advienne que pourra. Si elle ne peut pas voyager, c'est à elle de rembourser les frais engagés. Ensuite, ben, on était dans la période de la séparation des clubs, donc c'était très compliqué. Elles étaient plus pour l'annulation de la masterclass plutôt que la faisabilité. Du coup, on a dû encore faire appel à l'Ulu des Sports qui a tranché, qui a dit que cette masterclass devait se faire parce que l'horizon 2024 arrivait, parce que c'était un événement qui avait été travaillé pendant un an, qui avait déjà été repoussé et que c'était vraiment le premier événement qui arrivait après la crise. Donc cette masterclass-là, elle a été compliquée, très très compliquée. C'était une belle masterclass, mais l'organisation, elle est devenue compliquée alors que tout était bien sur le papier et il n'y avait pas de problème. Mais elle est devenue vraiment très, très compliquée.
Et combien de masterclass t'as organisé avec qui ?
Donc, j'ai eu Axel Jovenin, Christina Gurova, qui est la mère de Julieta Cantalupi, Varvara Filiu, Margarita Mamoun, Galkina et l'équipe bulgare.
Et comment réussir à contacter des grands noms comme ça de la GR quand on est un petit club d'Île-de-France ?
Alors, au début, c'était pour Mamoun, enfin, Axel, c'était très rapide. Varvara, je suis passée par l'Instagram Rhythmic Gymnastique. Une fois que j'avais organisé Axel, elle m'a dit « Est-ce que tu voudras en organiser une autre ?» parce que Varvara aimerait venir en France. Donc, ça s'est fait très rapidement et très simplement. On a la chance qu'elle parle anglais, donc ça a été vraiment très fluide. Ensuite, Mamoun, c'était au culot. Mes élèves m'ont dit « Oh, si tu arrivais à voir Mamoun ou Yana, on serait les plus heureuses. » Donc je me suis dit « Je vais les contacter par Instagram. » Par chance, elles ont réussi à ouvrir leur mail, enfin leur inbox. Donc elles m'ont retransféré vers leur agent. Ensuite, j'ai fait un sondage sur Internet pour savoir laquelle pouvait plaire. Les deux étaient vraiment à 50-50. Et après, je pense que j'ai choisi par feeling, dans le sens où Margarita, elle dégage un aura, une âme, je ne sais pas, au travers les photos de simplicité. Et au final, ça s'est confirmé. Yana, de par son titre, Margarita qui est quand même championne olympique, mais de par, on va dire, son parcours qui a été l'élève étoile montante, tout ça, d'autres prétentions, d'autres exigences qu'on ne pouvait pas répondre à ces exigences. Et puis, elle paraît froide. Et je pense ne pas m'être trompée en prenant le choix Margarita Mamoun, en tout cas pour cette masterclass à la sortie du confinement.
Et les Bulgares, c'est elles qui t'avaient contacté ?
Alors les Bulgares, ça s'est fait aussi particulièrement, dans le sens où on m'avait contacté aussi en me disant « Est-ce que tu ne voudrais pas organiser une masterclass avec des gymnastes bulgares ?» J'ai dit « Ok, mais qui ?» On m'a dit « Boriana Kalen ». J'ai dit « Bah, je l'aime bien, elle a une belle GR, mais elle est déjà venue en France. » Je lui ai dit « Ça ne m'intéresse pas. » On me dit « Bon, bah, tu voudrais qui ?» On peut te proposer Simona, la capitaine de l'équipe de Bulgarie. Je lui ai dit honnêtement, c'est soit l'équipe, soit rien. Donc la personne en question, je lui ai dit, tu demandes, moi c'est l'équipe ou pas de masterclass. Enfin, c'est Simona, elle est très bien, mais c'est une équipe. Donc elle m'a dit, bah, écoute, tu vas lui demander toi-même. Donc elle m'a donné son numéro et on a commencé à discuter. Et je lui ai dit, ben, je ne dis pas que tu n'intéresseras pas, mais l'engouement ne sera pas la même, ne sera pas le même. Donc, elle m'a dit tout de suite oui, il n'y a pas de souci, on sera 5 et on est heureuse de venir. C'est un rêve pour Madeleine de venir en France, elle n'est jamais venue, si ce n'est pour Thiers, mais elle n'a pas eu le temps d'aller à la Tour Eiffel, pas eu le temps de faire ceci, donc c'était plié en 5 minutes.
Donc maintenant, c'est plutôt le fait d'avoir pris pas mal de grandes gymnastes.
C'est facile.
Ouais.
C'est facile.
Ça aide.
Parce qu'en fait, comme elles se connaissent toutes, quand tu veux une personne, elle va voir l'Insta, elle voit qu'on a eu des Bulgares ou autres, et elles parlent entre elles parce qu'elles nous l'ont dit. Et elles leur disent, allez-y les yeux fermés, vous allez être vraiment bien accueillis. Elles ont quand même une Maserati, elles sont quand même en hôtel 5 étoiles, on leur fait sortie bateau-mouche, elles sont conduites, c'est à leur souhait quoi.
Et est-ce que tu as contacté des filles qui ont refusé ou que justement, elles avaient des exigences trop élevées quoi ?
Non. En général, les contacts, ils aboutissent. Ça peut prendre du temps, mais en général, non. Yana, par exemple, elle, j'ai refusé parce que c'était beaucoup trop haut. Et après, je me suis rendu compte que, au niveau de ce qu'on voulait créer au niveau de la master, à savoir une proximité, ça n'allait pas coller. Et puis, j'ai eu des retours aussi de gymnases de haut niveau qui m'ont dit qu'effectivement, elle fait sa masterclass. Elle peut être très froide et ce n'est pas du tout ce qu'on recherchait.
Et est-ce qu'être à Antony, c'est un handicap ou plutôt un bon truc pour les masterclass ?
Au niveau de la localisation ?
De tout, de faire venir, d'aide, de subvention ?
Alors, subvention, on n'en a pas. Au niveau de la ville, c'est très bien parce qu'elle est très bien placée. On a un très, très beau complexe, donc ça, c'est top. Complexe en plus avec des toitures en or, donc on joue aussi dessus, même si elle ne gagne pas forcément toute la médaille d'or. Au niveau des bénévoles, j'ai pas du tout de soucis au niveau de mes bénévoles, ils sont franchement au taquet. La mairie nous soutient parce que du coup elle privatise la salle pour nous, elle nous met à disposition les agents pour cette masterclass qui sont là de l'installation au rangement. On essaie d'intégrer les masterclass qu'on veut faire, c'est dur de prévoir, mais on essaie de les intégrer dans les subventions qu'on demande à la mairie pour avoir, même si c'est 500 euros, bah, c'est toujours une aide qui est bonne à prendre.
Et le fait que ce soit à côté de Paris, je pense que ça attire
aussi. C'est top, parce qu'en plus, elles peuvent, bah, par exemple, pour les Bulgares, comme elles sont arrivées le vendredi, bah, nous, on travaille. Il fallait qu'on installe la salle, mais autrement, on travaille à côté. Bah, elles sont allées se promener sur Paris toutes seules, comme des grandes, donc ça, c'est top. On est vraiment plus à côté du métro, du RER. L'hôtel est à 10 minutes du gymnase, donc elles sont baladées comme des touristes le vendredi. Le samedi, après la masterclass, pareil, le soir, elles sont sorties d'elles-mêmes. Et après, le dimanche, on a fait la balade tous ensemble sur Paris. Mais pour l'autonomie, c'est top.
Et lors de ta première masterclass, est-ce que tu as rencontré un peu des difficultés que tu as ajustées par la suite ?
Peut-être, c'était au niveau des groupes. Parce que du coup, on s'est rendu compte que le niveau intermédiaire peut être quand même très, très large, comme le niveau expert peut être très, très large. Donc, on peut avoir des filles qui sont en national et vont s'inscrire dans le niveau expert, alors qu'au final, c'est des nationales parce que soit l'équipe est en national, donc on doit monter tout le monde, soit les entraîneurs ont décidé de les pousser, c'est très bien, mais du coup, au niveau de la masterclass, elles vont se trouver en difficulté, alors que le but, c'est de découvrir quelque chose, pas forcément de réussir à l'instant T, mais de découvrir. Et du coup, on a ajusté à ce niveau-là. Et après, au nombre de participants. Maintenant, limite. Les premières, bah, après, Axel, c'était une petite masterclass, mais on avait quand même pas mal, une trentaine le matin, une trentaine l'après-midi. Guirova, pareil, il y avait beaucoup plus de monde parce que les gens connaissaient, c'était un entraîneur réputé. Mais du coup, au niveau de la proximité gymnaste-entraîneur, c'était moins bon. Donc, on a plus ajusté à ce niveau-là en limitant le nombre d'inscriptions. Sans forcément faire des malheureuses, on en fait quand même, mais moins. Et en se disant, bah, on va plus miser sur la qualité de l'enseignement pendant la masterclass.
Maintenant, vous limitez à combien les masterclass ?
En général, la salle, elle peut accueillir plus de 60, mais on essaye de limiter à 45. sachant que lorsqu'on fait une masterclass, bon, pour l'équipe Bulgarie, c'était top parce qu'elle était 5. Quand l'intervenant est tout seul, on essaye de faire venir des personnalités françaises, on va dire des gymnastes de haut niveau françaises, pour animer et créer un petit plus.
Alors, comment se passe une masterclass concrètement ?
Il y a toutes les préparations en amont, donc recherche de sponsors. En général, ce sont les mêmes. On essaye de prendre les mêmes, on essaye de fidéliser parce que nous, ça nous convient et qu'on ne recherche pas forcément de l'argent autre. On veut juste, au niveau des engins, on part sur Artiligne. On essaye de prendre des petites créatrices comme LM, les créations d'LM. Et après, Max Créatrice, SL pour les Justes Corps. Donc, on a toute cette recherche-là, recherche de cadeaux pour les gymnases, puisque je ne conçois pas qu'elles repartent les mains vides. L'installation le vendredi soir, donc tout ça est pensé. Le dessin de la salle est fait. Les réunions, voilà, chacun a son rôle. On installe le vendredi. Les gymnastes d'Anthony font l'aspirateur. Installe, elles sont super contentes. Le lendemain, les gymnastes arrivent. En général, on fait une heure d'échauffement. Ensuite, 45 minutes d'engin. Depuis peu, on a introduit la notion de « on travaille des éléments » et par la suite, on crée un petit enchaînement en musique. Certaines, cette année, on l'a vu, on réutilise dans leurs enchaînements. Moi, je ne le fais pas parce que du coup, celles qui ont fait la masterclass, elles le réutilisent. Elles me disent « on a réutilisé et c'était top ». Ensuite, la séance dédicace. Avec les Bulgares, on a eu une superbe démo. C'était top. Et c'est la même chose l'après-midi. Échauffement d'une heure, engin. Petit enchaînement et certaines font des jeux pour finir, d'autres juste la séance dédicace et une session de communication, d'échange.
Okay. Et donc on l'a pas dit, mais entre deux groupes, c'est deux niveaux différents.
Deux niveaux différents. Le matin intermédiaire et l'après-midi expert. Mais là, on a ajusté et on a vraiment ciblé en fonction des fédérations, puisqu'on ouvre à toutes, on ouvre aux fédérations. Donc on connaît plus ou moins les niveaux, donc ça va. On arrive à pas trop se tromper.
D'accord. Et toi, tu dis que tu réutilises pas forcément les petits enchaînements, mais est-ce que les masterclass ont un apport sur le travail des filles quand même ?
Je pense que oui. Je réutilise pas forcément le travail à l'engin au niveau des petits enchaînements, mais au niveau du corporel, parce que les exercices, même si on s'aperçoit qu'au final, les exercices, ce sont tous les mêmes, mais faits différemment. Et avec une autre approche, donc du coup, tu peux te dire que c'est différent, les filles le voient différemment, mais au final, c'est le même exercice. Je ne réutilise pas. Je réutilise les techniques, donc toutes les petites DA, les maîtrises qu'on appelle DA. Donc, pas forcément les mini-enchaînements qui sont créés, mais les techniques. Après, on les réutilise, on essaye de les modifier. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'après les masterclass, on garde quand même beaucoup contact avec les intervenantes. Moi, je sais que mes filles, j'essaye de les pousser un maximum. Et elles ont la chance quand même de les voir un peu plus que les autres, puisqu'elles viennent manger avec nous au restaurant. Donc, elles ont vraiment de vrais conseils, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, dans la vie personnelle, sur des conseils de confiance en soi, de gestion d'autres. Je sais, par exemple, que Varvara, elle a poussé une de mes élèves à faire du mannequinat, et aujourd'hui, elle est dans une agence. Mais elle l'a poussée, alors qu'on la pousse depuis je ne sais combien d'années. Et là, elle a enfin sauté le cap, et elle est rentrée là, dans une agence. Et elle est encore gymnaste, mais il a fallu que Varvara, parce qu'elle est waouh, lui parle. Nous, on a beau lui dire, c'était pas pensable de faire du mannequinat. Et aujourd'hui, elle va en faire.
Et est-ce que le succès est au rendez-vous ?
Je pense que oui. En tout cas, tous les retours, puisqu'on fait toujours un questionnaire retour, ont été positifs. Il y en a certains qui nous ont dit ce serait bien de proposer un panier repas. Ben, pour les Bulgares, on a proposé un panier repas. Pour Alkina aussi. Alors, on aimerait bien que ce soit un peu plus long. Donc, on essaye de négocier beaucoup plus long. Donc, ça va qu'elles sont super cool et qu'elles disent oui. Mais je ne sais pas dans quelle limite. Du coup, maintenant, en général, les formats masterclass, le matin, c'est bien, c'est 4 heures. Et l'après-midi, c'est 4 heures. Donc, on a introduit les 3 heures, les 30 minutes de dédicace. Et en général, on dépasse toujours. Mais ça reste des grands formats, alors qu'au début, on était sur du 2 heures.
Et les gymnastes, elles viennent que d'Île-de-France ?
Non, on a eu des gymnastes d'Espagne. Après, de toute la France, on a eu d'Espagne ou des étrangères qui étaient déjà en France de passage. Donc, se sont inscrites en masterclass. Mais on a des quatre coins, on a de partout. Enfin, voilà. Et on a beaucoup de gens du Sud. Aussi de la Bretagne.
Et donc tu parlais des retours des participantes, mais est-ce que tu as des retours aussi des intervenantes ?
Alors, on en a eu pas mal. Au début, moi, je préviens toujours sur le niveau français, qu'elles ne s'étonnent pas. Donc, elles disent oui, on connaît. Mais au final, elles font un programme parce qu'on travaille le programme avant. Donc, moi, je vois ce qu'elles proposent, je leur dis c'est pas possible. Enfin, vous, ce que vous appelez intermédiaire, c'est de la performance. Or, nous, ce qu'on appelle intermédiaire, pour vous, ce serait du débutant. Donc, elles ne me croient pas, jusqu'à ce qu'elles voient. Donc, on a un petit sourire. Et en fait, à chaque fois comme ça, elle réadapte le programme. Et du coup, bah, elles sont super contentes parce qu'elles sont déjà, elles viennent en France. Elles sont in love de la ville de Paris. Et après, bah, le public français les accueille quand même très, très bien.
Et c'est ce qu'on pouvait un peu se demander. Est-ce que ce n'est pas disproportionné de faire venir des championnes olympiques pour un niveau français ?
Je ne pense pas. Parce qu'au final, c'est des gymnastes qui nous font rêver, qu'on n'a pas forcément l'habitude de les voir, même si elles viennent à Thiès. En général, à Thiès, c'est en coupe-vent. Donc là, c'est, pour certaines, bah, elles vivent GR, elles mangent GR. Donc là, c'est rencontrer vraiment leurs idoles. Et donc, en fait, non, parce qu'elles s'adaptent vraiment au niveau français, constamment.
Bon, alors, je suppose qu'au cours de ces nombreuses masterclass, tu as rencontré quand même, tu as eu des belles anecdotes. Donc, est-ce que tu peux nous partager un peu des histoires ?
Ben, la première, c'est avec Margarita Mamoun. Ben, je pense que c'est celle que j'ai retenue, parce qu'elle était ben, avec tous les... On a quand même déplacé la masterclass à deux reprises. Et elle était tellement excitée de venir sur Paris. Et... Elle avait peur de ne pas nous reconnaître, puisqu'au final, on se parlait par WhatsApp, donc voilà. Qu'elle est sortie sans sa valise. Donc nous, on va à la voiture, elle est contente, elle voit la Maserati, elle monte dedans, elle prend des photos, elle fait ses placements de produits. Et on lui dit, bon, ben on y va, elle est où ta valise ? Et elle nous dit, ben elle est restée à l'intérieur. Donc on se met à rigoler, et on se dit, comment on va faire pour la récupérer ? Parce qu'une fois que tu sors de Roissy, tu n'y rentres plus. Surtout en période Covid, il faut prouver que tu étais à l'aéroport. Déjà, pour rentrer, ça a été un mensonge auprès des agents, en leur disant que voilà, enfin, on venait chercher un enfant, ils nous ont laissé passer. Et là, la valise, ben, impossible d'aller la récupérer. On a mis une heure pour la récupérer. Il fallait prouver qu'elle avait bien voyagé, donc elle avait le billet, mais il fallait prouver qu'elle n'avait pas récupéré sa valise. Le monsieur, donc je lui dis, elle parle pas français, mais il y a personne qui parlait russe. Elisabeth, oui, mais pour lui, on était de manigance pour rentrer, alors que non, on voulait vraiment récupérer la valise. Au final, on l'a récupérée, mais elle était tellement excitée de venir en France que c'était... j'en oublie tout. Ensuite, une autre anecdote, bah, avec les Bulgares, c'était au restaurant parce qu'elles mangent beaucoup. Et nous, on voulait pas manger parce qu'on se dit, on est avec des gymnastes. Donc elles mangeaient, nous on les regardait, on picorait. Pourtant, c'était déjà pas volonté parce qu'elles adorent ça. Et on mangeait un petit peu. Elles disaient, mais vous mangez pas ? On disait, non, on n'a pas faim, alors qu'on avait faim. Mais juste le fait de manger à côté d'elles, on va se tenir, on est à côté de championnes olympiques, on va pas se lâcher sur la nourriture, on va être tranquille. Après, il y a des petites anecdotes quand elles font des démos, enfin, elles sont très toutes humaines. Donc c'est magnifique de voir qu'elles vont rater, elles vont continuer tant qu'elles réussissent pas. Et la dernière en date, c'était Madeleine qui faisait une démonstration, elle n'y arrivait pas. On était là, allez, comme en compétition, il fallait qu'elle y arrive. Je crois qu'au bout de 20 fois, de la 20e fois, elle a réussi, on était toutes excitées à crier, allez, trop contentes parce qu'on disait, vous voyez, elle lâche pas. Et elle ratait, mais elle lâchait pas. Elle était un peu énervée, mais elle lâchait pas. Du coup, c'était marrant parce que nous, on se disait, ben, en fait, on peut rater, quoi. Après, ça va être des petits trucs comme ça. Varvara aussi, qui avait raté l'avion. L'avion de retour, elle l'avait raté. Pourquoi ? Parce qu'elle faisait du shopping dans les Duty Free. Donc, elle m'appelle. Brenda, j'ai pas pris mon avion. Je lui dis, comment ça ? Elle me dit, je l'ai raté. Je dis, non, c'est pas possible, on t'a bien mis. Et je m'en voulais parce qu'en fait, je l'ai déposé à l'embarquement. Et elle m'a dit, si, je connais. Je lui dis, non. Elle me dit, si, je sais lire. Je lui dis, non. Et en fait, elle a raté son avion. Donc, elle a dû en prendre un autre. Donc, on est revenu à l'aéroport. On a passé la journée. Elle a repris son avion le soir même. Donc, c'était marrant.
Et tu as découvert un petit peu, tu as eu des surprises sur les caractères des filles ?
J'ai découvert que c'était des bonnes vivantes. Alors que quand tu les vois en GR, comme elles vivent GR, tu te dis, c'est pas possible. Elles aiment bien sortir danser. Elles sont rigolotes. Après, tu en as des plus réservées. Par exemple, je prends l'équipe de Bulgarie, parce que c'est celle avec qui on a passé vraiment beaucoup de temps. Elles ont toutes, comment dire, je dirais pas un rôle, mais elles sont toutes protectrices entre elles. Et chacune a sa place. Je sais pas comment le dire, mais il faudrait être avec elles pour le voir. Mais par exemple, Simona était malade, elle a fait beaucoup de migraines. Et on était sur Paris, et elle voulait pas rentrer, parce que c'était la dernière soirée. Elle voulait voir la Tour Eiffel qui allait s'illuminer. Et elles étaient toutes autour d'elle... super protectrice. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super beau parce que mes élèves, je leur dis, vous voyez, quand je vous dis, voilà, elles sont comme ça, mais je dis, vous avez vu quand même. Et tu avais par exemple Erika qui est très discrète, mais qui est très, très marrante, mais qui reste à sa place. Et elles sont toutes plus ou moins comme ça. Et la soirée qu'on a passée, c'était en gros, elles ne viennent pas de la même ville, mais elles sont dans des villes où moi, je vais, ma vie, elle allait mieux parce que ma vie, elle allait mieux. Et on a passé la soirée à faire ça. Donc, on a découvert la Bulgarie comme ça parce qu'elles étaient là. Dans ma ville, il y a ça. En final, moi, j'habite à Sofia. Donc, pourquoi Sofia? Donc, la ville, c'est la meilleure. Nanana. Et c'était marrant. Mais elles sont toutes très, très différentes. Varvara est très, très simple. Très, très simple. J'ai jamais vu de quelqu'un d'aussi simple. Elle mangeait KFC. Ça ne la dérangeait pas de manger KFC à midi lors d'une masterclass. Hôtel, elle était en appart hôtel, ça la dérangeait pas. Dormir avec nous, ça la dérangeait pas. Être en appart chez quelqu'un, ça la dérangeait vraiment pas. Les autres, je pense que l'occasion s'est pas prêtée, mais elles sont toutes simples à leur manière. Enfin, manger au wok, enfin, t'emmènes pas quelqu'un au wok, quoi. Ben, ça les dérangeait pas. Manger le petit restaurant libanais du coin, ça dérangeait pas du tout. McDo, ça dérangeait pas du tout. Enfin, elles nous ont dit qu'on en a fait trop alors qu'il fallait pas forcément. En faire autant, quoi. Manger McDo, ça les convenait très bien aussi, quoi.
Et justement, bah, financièrement, est-ce que c'est bénéfique pour le club ou au contraire, c'est risqué?
Après, je dirais pas que c'est risqué parce que quand on fait une masterclass, on évalue les risques. Donc, on va pas les évaluer à 10 000 en dessous, mais on sait qu'on va pas, on n'est pas là, enfin, on est une association, donc le but, c'est pas non plus de faire du bénéfice. Après, oui, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous reversent une partie de leur vente. On négocie comme ça. Mais le but, c'est pas de faire une marge sur les masterclass puisque même l'argent qu'on gagne, on réintroduit dans des cadeaux pour les participants et les intervenants. Malgré qu'elles sont payées, on leur offre quand même un cadeau. Donc, c'est vraiment pas le but. Mais il y a des risques. C'est risqué parce que le club engage quand même une partie. Les inscriptions couvrent une partie, le club engage une partie. On a tous les frais de déplacement à couvrir. Donc, les frais de bouche, l'avion, l'hébergement. Et donc, soit on a une très très belle com et ça fonctionne, soit ben, le club met de sa poche. Après, ça reste quand même bénéfique pour l'image du club, même pour nos filles, parce qu'avant tout, on ne va pas se cacher. Les masterclass, c'est bien, mais on les fait d'abord pour... Moi, quand je présente au bureau une masterclass, je dis ça peut être bien pour nos gymnastes, parce que regarde comment elle est cette gymnaste, regarde le style qu'elle peut apporter. Après, voilà, on a des élèves qui sont des bâtons, on a des élèves qui sont très danseuses, on a des élèves... on a de tout, mais ça reste toujours bénéfique pour l'image du club, comme pour les gymnastes en tant que tels, au-delà de l'apport financier.
Et ça coûte combien une masterclass pour les gyms?
Ça dépend. Ça dépend du cachet que demande la gymnaste. Ça dépend de tous les frais annexes qu'on a. On essaye vraiment de pas trop monter les prix. Par exemple, Mamoun, c'était, il me semble, 120 euros la place. Les Bulgares, c'était 120 ou 140. Et les Bulgares, c'était plus ou moins au même prix, mais elles étaient 5 déjà. Mamoun, c'est vraiment parce que c'était la championne et qu'elle demandait. Et elle, quand on l'a eue, c'était vraiment. Elle est encore au sommet, mais c'était tout neuf. Elle était sollicitée, c'était le tout début pour elle. Donc, je pense qu'elle allait au plus offrant. Et puis, la France, c'était vraiment une destination qu'elle voulait faire. Les Bulgares, pareil. Le cachet, elle le partage en 5. C'est un cachet à 5 chiffres. Et après, il y a tous les à côté. Donc, le billet d'avion, tout de suite, ça monte aussi à plusieurs chiffres. Ça devient un nombre, du coup. Et l'hébergement aussi. Les frais de bouche, ça va parce que du coup, elles mangent comme nous, donc ça allait. Mais oui, c'est coûteux, c'est coûteux. Selon la masterclass, on essaie vraiment d'arranger les gymnastes. On essaie aussi de les fidéliser. Donc, on fait pas mal de concours pour que des gymnastes puissent gagner des places. Là, les dernières masterclass, le club a offert pas mal de places pour les gymnastes vraiment qui nous suivent et qui sont, on va dire, fidèles depuis le début. Certains, les parents me disent « on aimerait, mais financièrement, c'est un peu chaud ». Donc le club offre. Certaines qui s'étaient inscrites à une journée, bon, on leur offrait la deuxième. Pour au moins, parce que souvent, celles qui s'inscrivent une journée complète, c'est celles qui viennent de loin. Et on se dit « bon, autant qu'elles fassent la deuxième, c'est en week-end, elles peuvent rentrer après ». Donc le club offrait la deuxième journée. Mais au final, on arrive à bien rentrer dans nos frais.
Et alors, tu as parlé de l'image du club, etc. Mais quel bénéfice, du coup, pour le club d'avoir organisé tout ça?
Peut-être juste un bénéfice personnel, juste de dire on a réussi à accomplir ça. Je pense que c'est dans ce sens-là. Personnellement, je ne le regarde pas comme ça. Le soir, je pointe les aspects négatifs, ce qui me semble négatif. Mais par exemple, la présidente, pour elle, c'est tout nouveau. De base, c'est une maman de GR. Donc, les masterclass, elle a à fond. Mais pour elle, c'est une réelle satisfaction parce qu'elle se lance dans des choses où elle connaissait pas la GR. Enfin, sa fille était en loisir, elle est passée en compétition en UFOLEB, donc petit niveau. Elle voit du niveau amateur. Si elle va à Thiès, c'est très bien pour elle, mais la GR, ça reste... Elle est très, très, très intégrée dans la GR, mais ça reste vraiment un monde qu'elle ne connaît pas. Et de rencontrer des championnes qui, plus est, prennent une photo avec elle et puis après, elle lui marque un petit mot, « Vous êtes la meilleure présidente », franchement, c'est super sympa. et qui passe en plus tout le week-end avec elle. Donc l'image du club est franchement juste une satisfaction personnelle de dire on a réussi à la fin du week-end.
Et est-ce que tu penses que ça fait connaître davantage le sport ou ça reste quand même très dans un entre-soi?
Alors, je pense que ça dépend du mode de communication. Au niveau de la ville d'Antony, du coup, on a eu l'année qui a suivi, puisqu'on a monté le club cette année-là. Pour une première année, on avait quand même plus de 200 adhérents. Pour une association qui débute, c'est énorme. On s'attendait vraiment à avoir nos petites compètes qui avaient quitté l'autre club, donc une 70, et quelques loisirs. On avait tablé sur une trentaine de loisirs, ça fait 100, c'est très bien pour une première année. La mairie a fait vraiment, enfin le service des sports a vraiment fait le jeu. Ils ont communiqué au maximum sur la masterclass, puisque c'était quand même la masterclass de Mamoun, c'était championne olympique, donc même pour eux c'est un prestige, sachant qu'ils sont quand même terre d'accueil, pas de GR, mais terre d'accueil. Ils aimeraient avoir l'accréditation pour accueillir une équipe GR. Dans un rayonnement plus grand, je ne suis pas sûre, dans le sens où ça reste quand même des adeptes à la GR qui suivent. Les comptes qui ripostent, qui publient ce type d'événement, sont des comptes GR, ou sont des comptes clubs, des comptes fans, ou les gymnastes. On a quand même l'actu des Hauts-de-Seine qui est passé pour faire un article. On a essayé d'avoir le Parisien, mais il y a eu un petit couac au niveau des timings. On a voulu avoir l'équipe, mais à cette époque-là, il y avait une polémique, je crois, avec l'équipe de France. La journaliste sportive aurait souhaité être à la masterclass, mais n'a pas pu, du coup. Parce que, du coup, il y a eu ce petit événement avec l'équipe de France. Mais je pense que ça tend à se développer. Déjà, en GR, il faudrait développer plus de masterclass au sein de la GR, puisque les masterclass existent beaucoup en danse, dans les autres milieux. Et c'est dans la GR qu'il faudrait déjà développer les masterclass pour qu'on puisse avoir un rayonnement beaucoup plus fort.
Et est-ce que tu penses continuer encore longtemps?
De base, j'avais dit que j'arrêtais après la masterclass des Bulgares. Mais j'ai eu un nouveau contact pour l'été. Donc, on est en train d'étudier... Non, cette masterclass est actée. Il faudrait juste la mettre en place. Et j'avais eu aussi un autre contact d'un intervenant masculin qui peut être vraiment top pour la GR française. Donc, c'est en pourparlers. Ça devait avoir lieu, mais entre les différents championnats, le calendrier géré est quand même très, très corsé. C'est compliqué. Mais déjà, il y a une masterclass qui se profile pour le mois de juillet.
Et c'est ça aussi, de pouvoir prévoir une masterclass sur le calendrier géré, c'est compliqué.
Très compliqué. Du coup, soit en général, c'est pendant les vacances. On essaye de voir... on essaye de planifier en fonction des différentes zones. Le week-end en commun. Ou de se dire ça en juillet, du coup, on a des malheureuses parce qu'elles partent en vacances, et on a des heureuses parce qu'elles sont en stage club, et du coup, elles peuvent en profiter pour venir faire la masterclass.
Dernière question, est-ce que tu as d'autres projets à venir?
Oui, un projet cet été, qui est en pourparlers, qui est en construction, parce qu'il faut que ce soit bien fait, et un projet en début d'année scolaire prochain, parce qu'on parlera en année scolaire, octobre-novembre. Donc, on est en train de poser sur le papier et normalement, une fois qu'on a l'aval de notre mairie, ça devrait...
On a hâte de voir ça. J'espère qu'on sera présent pour ça.
Invité. Il faudra que vous répondiez à l'invitation parce que c'est nous qui vous sollicitons.
Oui, aussi. Mais écoute, merci beaucoup, Brenda.
De rien. Merci à toi.
Et puis, à très vite pour tes projets.
À très vite.
Ainsi se termine le podcast du jour. Un grand merci pour votre écoute. N'oubliez pas de commenter et de partager autour de vous afin d'encourager notre travail. À très bientôt pour un nouveau podcast sur spotgym.fr.